Et salut à toi, fidèle auditrice, auditeur, novice. Bonjour Sylvain.
Salut.
Très loin du micro. Nous sommes le lundi 3 avril et vous écoutez L'Onde Curieuse, le magazine d'information locale et loquace de Fréquence 7. Toujours du vent sur nos vallées ce matin, un vent tenace et qui se faufile partout, un vent qui attise les passions et qui attise aussi les braises de nos révoltes partagées. Que s'est-il passé en ce week-end de 1er avril? Est-ce que vous avez pensé à rigoler, à faire des blagues? Est-ce que vous êtes venu dimanche hier dans le jardin de Fréquence 7 pour profiter de la première édition des sessions musicales du printemps? Peut-être que vous avez préféré vous retrancher chez vous, échapper au vent et regarder tranquillement des documentaires. Si vous aviez déjà poncé Netflix, écumé YouTube et que les docus d'Arte n'ont plus de secret pour vous, vous pouvez vous tourner vers la plateforme Tunk. Basée à Lussas, Tunk résonne dans toute la francophonie comme une référence en matière de documentaires d'auteurs. Nous avions rencontré Thierry Gilbert pour une présentation de la plateforme Tunk au Salon Primevert du mois de février 2023. Rendez-vous en deuxième partie de cette émission pour écouter l'interview. Pour le moment, on revient un petit peu sur l'actualité. Depuis le week-end dernier, après la répression militaire de la manifestation contre les méga-bassines à Sainte-Soline, deux polémiques prennent de l'ampleur. D'une part, les citoyennes et citoyens excédés par les violences policières. À Sainte-Soline, en 2 heures à peine, 240 personnes ont été blessées par les forces de l'ordre. Parmi elles, Serge D, 32 ans, atteint à la tête par une grenade lacrymogène. Commotion cérébrale, coma. Malgré un casque de chantier, l'homme est entre la vie et la mort. D'après une vidéo mise en ligne par Libération ce matin, la grenade, on voit la grenade qui tape le casque avant d'exploser ou qui explose au moment de l'impact en libérant les cartouches fumigènes sur le sol. Donc jeudi dernier, devant toutes les préfectures du pays, des gens se sont rassemblés pour exiger que justice se fasse, dans le cas de Serge comme dans tous les autres cas de violence policière qui émaillent les manifestations contre la réforme des retraites. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se défend comme il peut. Il assure que l'IGPN et l'IGGN, donc les organismes qui supervisent et font justice au sein de la police et de la gendarmerie, faisaient leur boulot et punissaient les policiers qui enfreindraient leur règlement. Il a décidé de rejeter la faute des violences policières sur ce qu'il appelle l'ultra-gauche, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas d'accord avec lui. Il a rappelé au passage que 2200 militants de gauche étaient fichés S et il a promis, en tapant du poing sur la table, que plus aucune ZAD ne s'ouvrirait dans le pays. La menace est explicite. L'autre polémique qui enfle à propos de ça après Sainte-Soline, c'est la gestion de l'eau. Le printemps s'installe, les paysans et les agriculteurs reprennent une activité intense, les premiers touristes débarquent, la pluie se fait toujours attendre, et les mesures de restriction et de gestion de l'eau sont toujours bien maigres, on ne sait pas exactement ce qui se passe, on va enquêter là-dessus et on en reparle très bientôt dans L'Onde Curieuse. En attendant, notez que cette semaine, au Vence, démarre une semaine de sensibilisation à la sobriété. Alors à défaut d'une politique publique de sobriété éclairée et claire, c'est encore sur les citoyens que peut retomber la possibilité de changer nos habitudes. Rendez-vous demain midi dans L'Onde Curieuse, on en parle en direct sur le plateau avec les organisateurs de cette semaine. Enfin, ce matin, je suivais un peu l'actualité de l'Élysée, et donc Emmanuel Macron a pris connaissance des travaux qui sont menés depuis décembre par une commission citoyenne sur la fin de vie. Ça fait un moment qu'on en parle, suicide assisté, euthanasie, il y a plusieurs cas d'école, on est un peu en retard en matière de législation sur le sujet par rapport à nos voisins d'Europe. Donc depuis décembre, 184 personnes tirées au sort ont échangé, débattu, ils se sont procurés et partagé des informations et des données, et ils se sont mis d'accord sur des moyens d'implémenter euthanasie et suicide assisté dans différentes situations. Donc ils ont rendu les résultats de leurs travaux hier et ce matin, le président Macron a remercié les personnes pour leur travail tout en expliquant que ce n'était qu'une étape et qu'en aucun cas on ne prendrait pour acquis le résultat de ces travaux. Donc c'est les fameuses concertations qui n'aboutissent à rien comme on avait vu en 2019 avec la concertation citoyenne pour le climat. On verra bien, en tout cas moi ça a donné lieu à une jolie couverture dans la presse ce matin où on voyait la tête d'Elisabeth Borne en photo à propos du sujet des retraites et en dessous il y avait écrit en gros « Suicide assisté, que faire ?» Moi j'ai peut-être une piste de réponse. C'est tout pour les petites infos de ce lundi matin. Ça va vite, mais on sort de week-end. Je vous propose, si vous n'étiez pas là pour séquence 7, donc la première session musicale dans le jardin de la radio hier, de redécouvrir Robin Tripp and the Oysters avec leur premier extrait d'album, c'est Full Moon.
C'était un soir de pleine lune dans le Grand Canyon. On entendait arriver une locomotive. Et vous savez ce qui se passe les soirs de pleine lune? C'était le soir des loups-garous. It was a day full of loveliness. I used to be of loneliness. All my mind was occupied, and you know what I say. Hey, 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 I won't get you, I really want you, I want to see you every day now. I really want you, my heart is for you, I want to see you every day now. Day now, day now. Don't you hear my voice screaming for you, baby? I don't have a choice. Come on, hold it, baby. Don't you hear my voice screaming for you, baby? I don't have a choice. It was a day full of loveliness. I used to be full of loveliness. All my mind was occupied. And you know what I say? Hey, 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 hey.
Full Moon, c'était Robin Tripp and the Oysters avec Full Moon, donc la pleine lune en réalité c'est jeudi. Mais on avait pris un peu d'avance, on a reçu du coup ce petit couple génial que j'adore voir jouer et écouter dans les jardins de Fréquence 7, puisque ce printemps, votre radio ouvre les portes de son jardin pour les séquences 7. Donc on organise 7 sessions musicales dispatchées jusqu'à fin juin. Notez bien la date, merci à la cinquantaine de personnes qui se sont déplacées malgré les grosses rafales de vent hier. On a passé quand même une belle journée avec nourriture bio fait maison, bière locale, du vin nature, de la clairette et des jus frais. Voilà, c'était une belle première. Notez déjà la date de la prochaine séquence 7, donc c'est le jeudi 20 avril de 17h à 21h dans le jardin de la radio, à côté du parking du Belvédère à Aubenas. Ça sera une session drum and bass avec un set de 2h30 de très très grande qualité. Je vous en reparlerai à l'antenne, on fera sûrement une petite annonce. Parlez-en à vos copains, notez ça dans vos agendas. N'oubliez pas qu'il y aura encore à boire, à manger, et c'est une bonne occasion de découvrir l'équipe de la radio. Ben voilà. Je vous propose de continuer du coup avec le reportage comme annoncé sur les studios Tunk. Donc c'est une entrevue qui a été menée par Éric Labage. Éric Labage qui est fraîchement retraité de Grésivaudan FM et que je salue ici. Donc c'était dans le cadre du salon Prime Vert où Fréquence 7 a posé le petit studio de radio pour accueillir des interviews avec des actrices et acteurs du changement et de la transition. Donc on avait Thierry Gilbert des studios Tunk. Je vous laisse avec ça, à tout de suite.
Et nous accueillons maintenant Thierry Gilbert, bonjour.
Bonjour.
Alors vous venez représenter Tunk, je ne sais pas comment prononcer.
Tunk. Tunk. Oui, Tunk, oui, oui, c'est un terme Wolof.
Un terme Wolof.
Oui, oui, tout à fait. Oui,
qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce terme Wolof?
Écoutez, ce sont les créateurs de ce projet qui datent d'il y a 6 ans à peu près, qui ont voulu choisir un terme qui exprimait précisément sa pensée en Wolof. Voilà, et on pensait que ça couvrait bien ce qu'on souhaitait faire au niveau de Tunk, c'est-à-dire faire découvrir différents univers par le regard de ceux qui les produisaient, de ceux qui les réalisaient, et offrir donc des projets qui sont uniques, hein, qui dépendent beaucoup de la façon dont les producteurs et les réalisateurs les mènent. Voilà.
Alors vous parlez de projet, vous parlez de producteurs et réalisateurs. Peut-être pour nos auditeurs, il faut préciser qu'il est question de documentaire.
Tout à fait.
De films.
On est une plateforme de vidéo à la demande par abonnement. Et donc les particuliers ou les collectivités ou des écoles d'art peuvent s'abonner à Tunk sous des formats différents et peuvent donc bénéficier de la proposition éditoriale de Tunk, donc avoir 6 films par semaine qui restent 2 mois sur la plateforme. Donc il y a en permanence une cinquantaine de films sur la plateforme de Tunk, avec des thématiques évidemment très diverses, des présentations qui sont également extrêmement diversifiées, et des durées aussi qui peuvent être soit courtes, soit vraiment très longues. Donc on a tous les types de formats, tous les types de sujets qui sont proposés dans Tunk.
Alors vidéo à la demande, je pense que les auditeurs ont une très bonne idée de ce que c'est, mais oui, ils vont avoir en image Prime Video, Amazon,
oui, enfin, tout à fait, ouais,
les grands serveurs. C'est pas du
non,
tout
non, on
votre
pas...
projet,
non,
vous
on
proposez
est...
pas du film grand public, c'est vraiment un travail autour du documentaire.
Tout à fait, oui, oui. Alors on peut présenter du grand public, c'est-à-dire du film, ce qu'on appelle le film cinéma, les films qui sortent en salle, les documentaires qui sortent en salle, et puis après, on profite de la très grande diversité, de la grande richesse de ce secteur d'activité, qui est le documentaire d'auteur, pour offrir à nos abonnés des pépites, des projets différents, des regards différents, etc. C'est ce qu'on trouve sur Tunk par rapport aux plateformes généralistes, je dirais, hein, qui proposent également des documentaires.
Tout à l'heure, vous utilisiez le mot de ligne éditoriale. Quelle est la ligne éditoriale de Tunk? Comment vous choisissez les auteurs, les thématiques, les pays d'origine, etc.
Donc c'est en fonction d'une thématique qui est cadrée par le pôle éditorial de Tunk, qui se trouve donc à l'USAS, et qui actionne ensuite une vingtaine de programmateurs qui sont répartis sur l'ensemble du territoire national et même à l'étranger, hein, et qui, en fonction de ces différentes thématiques qui sont proposées, généralement on essaie de ne pas être dans l'actualité chaude, hein, mais toujours être en décalé, etc., sur des thématiques que l'on prépare très à l'avance, très en amont, et donc généralement 6 mois, 8 mois, 10 mois après des événements ou s'appuyant sur des thématiques qui ont donné lieu à des débats, etc., généralement on peut articuler notre proposition documentaire au bout de 5, 6, 7 films chaque semaine. Voilà.
À vous écouter, on a l'impression que c'est lié à l'actualité, mais en décalé. Mais je pense que vous pouvez avoir des documentaires qui sont totalement en dehors du temps.
Tout à fait. Tout à fait. Ça dépend totalement de la façon dont le pôle éditorial souhaite couvrir les différents champs qui se proposent à lui, en fonction également des envies des programmateurs. Parfois il y a un ou deux films qu'on appelle locomotives chez nous qui vont porter, qui permettent d'articuler une programmation autour de ces deux films et donc d'aborder une thématique et donc qui sera totalement décorrélée de toute réalité ou de toute actualité, et c'est en fonction de ça, des humeurs Et donc il y a une très grande liberté dans la façon dont, dont c'est proposé.
Voilà. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques thématiques? Parce que là, ça reste assez flou, je dirais.
On est très centré sur tout ce qui est dans le social, écologie, assez développé, tout ce qui est les problèmes de genre également. Donc on est souvent sur des problématiques parfois de limites, de fractures, etc., ou qui posent débat. Ça, c'est ce qu'on privilégie, c'est un petit peu la dimension militante de Tunk, qui est également une coopérative, il ne faut pas l'oublier, parce que là il y a la dimension proposition artistique et culturelle, mais tout ça s'inscrit dans un cadre coopératif, on est une SIC de territoire, et donc on développe cette offre au profit d'un public de connaisseurs, de gens qui sont intéressés par ce genre, et ça nous permet ensuite, et c'est le deuxième volet que je voulais exposer, de soutenir des documentaires de la nouvelle création avec des studios que l'on a à l'USAS. Oui, donc un auditorium, des salles techniques, salles étalonnage, montage son, montage. Et donc les équipes viennent avec leur rush, leur bande, et puis de l'USAS, on sort des films qui seront en mesure d'être projetés, y compris en salle cinéma. Ouais.
Donc, en fait, vous avez fait le chemin à l'inverse de ce qu'on fait habituellement. D'abord la diffusion.
Tout à fait.
Et maintenant le montage.
Tout à fait. L'objectif étant que les fruits, les produits de la diffusion permettent d'irriguer le dynamisme de la nouvelle création documentaire. En gros, c'est ça l'objectif de Tunk. C'est de participer au dynamisme du documentaire d'auteur.
Le chemin inverse, diffusion, montage, est-ce que ça va aller jusqu'à le devenir producteur?
Non, normalement non, déjà parce que ce ne sont absolument pas des mêmes métiers. Le métier de diffuseur nous interdit d'être producteur. On rend visible des productions de réalisateurs, mais on ne peut pas être producteur et on n'a pas cette ambition de toute façon, même si on pouvait créer des structures annexes, etc. On n'est pas. Déjà, on essaie de stabiliser la plateforme, développer nos salles techniques, l'auditorium tout fraîchement créé depuis un an et demi. Hein, et donc, maintenant, il faut qu'on le remplisse, cet auditorium. Et par conséquent, on se développe actuellement sur nos axes principaux. Après, on sera plutôt sur le développement à l'international. On regarde un peu l'Afrique. C'est des territoires qui nous intéressent beaucoup de par la vivacité de leur documentaire.
De par votre ligne éditoriale et vos choix, j'allais vous poser la question, est-ce que vous avez des diffusions dans d'autres pays ou sur d'autres continents?
Alors, sur d'autres continents, on a un partenariat avec le Canada, puisqu'il existe Tunk Canada, Tunk Québec, mais qui est autonome, mais on a des liens très forts, notamment sur tout ce qui est back-office, sur le site internet, etc., et même plus que ça. Sinon, on diffuse en Belgique, Suisse et Luxembourg, donc là, on reste francophone, mais européen. On a fait une tentative en Europe, Italie, Espagne, Allemagne, etc., mais on a préféré se retirer, en tout cas provisoirement. Donc on se concentre essentiellement sur les territoires francophones européens. Et pour le reste, on noue des partenariats.
Territoire francophone, c'est vrai qu'une grande partie de l'Afrique devrait être un territoire privilégié pour vous.
Oui, tout à fait. Mais après, on est sur des modèles différents, des modèles économiques, des modèles culturels. On veut absolument déjà stabiliser Tunk dans son projet francophone. Et ensuite, on verra. Mais c'est vrai qu'on est très intéressé d'une ouverture plutôt sur l'Afrique, oui. Francophone tout d'abord, mais après anglophone, hein. On n'a pas de problème de ce côté-là. Hein.
on connaît le coût de la production, du montage, de la diffusion pour ce qui est des documentaires. Le fait que vous ayez fait le choix d'être en coopérative, est-ce que ça vous permet de rendre plus accessible toute la partie montage pour les réalisateurs?
Oui, tout à fait. Les équipements techniques que l'on a à l'USAS sont utilisés en gros pour moitié en mise à disposition à titre gracieux dans le cadre de partenariats de soutien de films qui nous touchent, c'est-à-dire à la lecture des scénarios, des documentations techniques, etc. On s'aperçoit qu'un film a un intérêt que l'on considère que ce film, il faut qu'on le soutienne. Et par conséquent, en dehors d'un petit apport en numéraire, généralement, on apporte surtout du soutien technique, donc ce qu'on appelle le soutien à la production. Dans le cas de la post-production. Donc, hélas, on met à disposition nos salles techniques entre parenthèses, gratuitement ou presque gratuitement, ça dépend des contextes, hein, évidemment, mais en tout cas à des prix préférentiels, si ce n'est pas la gratuité, pour des films qu'on soutient. L'autre volet, les 50%, c'est de la location de salles, hein, des équipes qui viennent monter leurs films à l'USAS.
Et quels sont les membres de la coopérative? C'est-à-dire, est-ce que c'est des gens qui sont impliqués dans le domaine du documentaire en tant que réalisateur, monteur ou autre? Ou est-ce que c'est simplement des passionnés qui ont décidé un jour de monter cette structure de vidéo à la demande?
Alors, à l'origine, clairement, ce sont des membres de la profession qui ont... puisque à l'USAS, il faut bien voir qu'il y a déjà 6 ou 7 structures qui existent. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que Tank. Hein, on parlait tout à l'heure de l'école documentaire. Il y a DocMonde. Il y a plein de structures sur l'USAS. Et Tank est la petite dernière, hein, qui est née il y a 6 ans maintenant. Et initialement, ça a été créé par des passionnés de documentaire dans le sillage de tout ce qui avait déjà été créé à l'USAS. Et depuis, évidemment, c'est devenu un véritable projet de territoire avec une forte implication des collectivités locales, de la communauté de communes de Berguet-Couaron notamment, mais également le département au travers de soutien de films et également de mécènes, d'investisseurs locaux, de gens attachés au portage de projets culturels en territoire rural, parce qu'on est quand même à l'USAS encore en territoire rural, même si on n'est pas loin d'Aubenas. Et du coup, moi par exemple, je viens des énergies renouvelables. Hein, moi j'étais sur plutôt Enercop, vous voyez, qui est également au salon. Donc c'est en allant voir un film au navire à Aubenas, dans le hall d'entrée, il y avait un stand de Tank. C'est comme ça que j'ai rejoint Tank et maintenant je suis au président du conseil d'administration. Voilà, ouais, rien ne me présidait à être président de Tank, sinon la passion pour un genre que j'ai découvert en abordant un stand dans un cinéma. Voilà.
Ce qui semble intéressant peut-être de développer pour nos auditeurs, c'est ce concept de projet de territoire. C'est-à-dire qu'effectivement, l'USAS, on va dire, s'est perdu au cœur de la France, si on regarde de loin.
Oui.
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça devient un lieu spécifique autour du documentaire, du cinéma et un projet de territoire?
Clairement, une volonté collective. Il y a comme souvent dans des projets comme ça, ça part de 1, 2, 3 personnes ultra motivées, qui ont une bonne capacité à mobiliser des énergies locales, des énergies culturelles, etc., et qui font qu'à tel endroit, alors que rien ne s'y prêtait, Jean-Marie Barbe est fils de l'épicière, hein, donc, qui a fait une carrière et qui continue d'ailleurs dans le documentaire d'auteur. Et donc ce sont des gens qui ont eu cette énergie-là de le lancer. Et ensuite, il y a toutes sortes de personnes qui se sont agrégées au projet et avec l'appui des collectivités publiques, il ne faut quand même pas l'oublier aussi, on arrive à créer des petits miracles. L'USA, c'est le documentaire. Vous allez à Saint-Pierreville, c'est Ardelaine, c'est la laine. Pourquoi ces belles histoires se sont créées comme ça? Comme je vous le dis, avec un vivier de gens moteurs. Et puis des collectivités publiques, des partenaires privés, des gens qui sont sensibles à la démarche, qui ont la volonté de défendre, en l'occurrence là, un genre culturel sur un territoire.
Ce qui me semble plus étonnant, c'est l'implication ou l'encouragement des collectivités publiques. On a plutôt l'habitude de voir les collectivités publiques développer les aspects économiques, marchand, alors que là c'est un développement et travailler le territoire sur un domaine culturel, c'est tout à fait intéressant et particulier en termes des collectivités territoriales.
Bien sûr, non, mais c'est justement ce qui faisait aussi l'originalité, c'est les collectivités soutiennent un projet culturel en milieu rural, c'est quand même pas simple, hein. C'est plutôt généralement on est dans l'urbain.
Oui, et extrêmement étonnant. Rare.
Oui. Et du coup, mais c'est pas pour rien que les États généraux du documentaire de l'USAS sont le deuxième festival de France. Hein, il y a Paris, l'USAS, Marseille. Oui, on va chercher l'erreur. Et ensuite, vous avez le deuxième auditorium format cinéma d'Auvergne-Rhône-Alpes. Le premier étant à Lyon, Odilon. Voilà. Et voilà, donc vous en avez deux, Lyon et l'USAS. Donc voilà, ça fait partie de ces petites histoires, ces histoires qui naissent comme ça, on ne sait trop comment, mais qui font plaisir à, à vivre. En tout cas, moi, c'est un immense bonheur de vivre ce projet.
Ça se voit sur votre visage.
Oui, tout à fait, oui.
Comment on fait si on veut contacter Tank ou aller sur la plateforme?
C'est extrêmement simple, hein, que ce soit pour s'abonner ou même quand on est du métier du documentaire et qu'on veut voir son film passer sur la plateforme, il suffit de contacter Tank ou s'abonner directement sur la plateforme. Maintenant, 4 clics, vous savez, sur n'importe quelle plateforme, on s'abonne. Donc nos abonnements, c'est au mois, au trimestre ou à l'année, hein, pour les formats familiaux en quelque sorte. Donc 6€, 18€ et 60€ selon les durées évidemment. Ça c'est la dimension abonnement familial. Et après vous avez les abonnements avec les collectivités, avec les universités, les écoles d'art, je citais, on est avec le HESS, etc. Donc c'est au travers de ces structures qui sont dans le milieu de l'art ou de la connaissance que l'on peut connaître également Tank. Également, si on est abonné à Mediapart ou qu'on écoute France Culture, on a des partenariats avec ces structures. Voilà.
Il suffit de taper sur un moteur de recherche.
Voilà, tank.fr.
T-E-N-K.
T-E-N-K, et ensuite se laisser guider.
Merci beaucoup, Thierry
Gilbert. Merci à vous de m'avoir invité.
Et c'était Thierry Gilbert au micro d'Éric Labage. C'est le début de la fin de cette émission de L'Onde Curieuse du lundi. Nous sommes le 3 avril et tout va bien, à part cette accusation, encore une fois, du ministre de l'Intérieur qui accuse... J'étais en train de relire un article dans le Dauphiné Libéré où il explique... il refuse de céder au terrorisme intellectuel de l'extrême gauche qui consiste à renverser les valeurs, les casseurs deviendraient les agressés et les policiers les agresseurs. On se demande quand même qui inverse les valeurs et si vraiment un terrorisme intellectuel existe. Voilà, c'est pour la suite des émissions cet après-midi sur Fréquence 7. À 13h, vous retrouverez Les Jardins Suspendus. À 15h, c'est le Telex avec vos messages sur notre boîte vocale au 04 75 93 30 25. À 17h, la rediffusion de L'Onde Curieuse de ce midi. 18h, c'est les camarades de Solidaires d'abord qui prennent le studio en direct. Et à 21h, Hexagone Live, DJ Steph revient sur la tournée du groupe de hard rock Trust, une tournée qui s'appelait Répression dans l'Hexagone. Sans doute un clin d'œil à l'actualité. On remercie DJ Steph pour son boulot. Rendez-vous donc à 21h. L'Onde Curieuse revient demain à midi avec Sophie et différents invités sur le plateau. Je vous souhaite une excellente après-midi et à très bientôt.